Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Et j'ai dit dans les dernières semaines que ça approchait à grands pas. Et bien là, c'est beaucoup plus que proche. C'est déjà cette semaine qu'il y aura des événements par rapport à l'Omnium Banque Nationale. Ben d'ailleurs, il y a déjà des festivités qui ont commencé cette semaine. Il y aura le tirage au sort vendredi soir. D'ailleurs, Sur la ligne fera une émission spéciale pour faire l'analyse du tableau des hommes et du tableau des femmes tout de suite après que les tableaux seront révélés. Ce sera une émission qui sera diffusée à BPM Sport. D'ailleurs, Sur la ligne sera toute la semaine en direct de l'Omnium Banque Nationale pour faire tous les matins une émission qui va mettre la table Café OBN, d'ailleurs, qui est présenté par Nespresso, qui a accepté de nous commanditer pour cette semaine. On est bien fiers de faire le Café OBN une fois de plus cette année. Ce sera tous les matins pour mettre la table à la journée de tennis. Et évidemment, à BPM Sport, il y aura des matchs diffusés en soirée également. Ce sera Anthony Marcotte et moi-même qui serons aussi en ondes. Nicolas Richard va venir faire son tour également. D'ailleurs, Nico, comment te portes-tu? Comment vas-tu, mon cher ami?
Ça va très bien, grosse semaine de tennis qui s'en vient. Je me sens un peu comme avant Noël. Tu sais, on prépare ça presque toute l'année. Et puis on est à quelques jours de cette fête du tennis qui sera, je l'espère, à la hauteur de nos attentes.
Ah, je suis absolument pas inquiet. D'ailleurs, cette semaine, on va faire les choses un peu différemment. Là. D'habitude, on fait vraiment quelque chose en lien avec l'actualité. On va parler un peu d'actualité de tennis cette semaine, mais ce sera une émission pour l'essentiel destinée à parler de l'Omnium Banque Nationale, évidemment, parce que ce sera déjà cette semaine. Isabelle Étienne est en notre compagnie. Comment te portes-tu, Isabelle?
Ça va très bien. Moi aussi, très fébrile à l'arrivée de l'Omnium Banque Nationale. Tous mes tickets sont achetés comme à Noël, là, tu sais. Non, c'est pas vrai. mais très, très hâte de voir le tirage vendredi, de quoi aura l'air le tableau. Mais aussi, on va avoir un beau week-end. On en parlera un peu plus tard, là, mais un beau le week-end famille IGA là, qui est gratuit. Donc, non, c'est vraiment, je suis très fébrile, très contente d'être là cette année avec vous.
Et tu me disais, hors d'onde également, que tu vas faire partie de l'équipe de diffusion de TVA Sport également?
Bien, je vais faire, oui, je vais être là tous les jours. Je vais être aussi à BPM. Je vais être avec vous, bien entendu. Je viendrai prendre des petits cafés avec vous, un espresso, c'est mon café. Fait que, donc, je vais être présente. Je vais être la fan en moi, la passionnée de tennis en moi sera présente pour vous parler d'un peu plus l'aspect accessibilité, on va être dans l'équité, dans l'inclusion de notre sport qui est le tennis.
Bien intéressant, ouais. Tu parlais de Nespresso, on est très, très, très content de ce partenariat-là. Merci à Hugues Léger là, qui est en vacances, je le salue, qui d'ailleurs revient aujourd'hui en espérant que son vol se passe bien au retour de la France, mais on est bien content de ce partenariat-là. Je veux remercier aussi Delary qui va être avec nous également du côté de l'Omnium Banque Nationale et l'Hôtel Montville qui est avec nous depuis le tout début ou presque. Là. Alors, on est très, très, très chanceux d'avoir des partenaires comme ça qui nous soutiennent dans ce projet-là. Alors, on est bien content. Jacques, il y avait déjà des festivités qui avaient commencé cette semaine. Nico, je ne sais pas si tu as vu passer ça sur les médias sociaux. Le spectacle de drones, c'était absolument spectaculaire. Les images que j'ai vues passer, as-tu eu la chance de voir ça?
J'ai pas vu les images passer, mais j'ai vu l'annonce, par exemple, en même temps que les feux d'artifice. Fait que le ciel était occupé hier à Montréal.
Oui, exact. Et toi, Isabelle, je t'ai vu sourire. Tu as vu des images passer, j'ai l'impression.
Bien, j'ai vu quelques images, mais comme Nico, je n'ai pas pris le temps de vraiment m'arrêter, de tout regarder. Il y a tellement tellement d'activités autour hein, de l'Omnium Banque Nationale qu'à un moment donné, on en parle quelques-uns. Puis il y avait un beau week-end de tennis aussi là, en fin de semaine.
Oui, bien, il y avait beaucoup de tournois qui se jouaient en même temps cette fin de semaine. On va en parler dans quelques instants. Je vais juste prendre quelques instants aussi pour souligner que ben, si vous écoutez lundi, comme beaucoup le font, aujourd'hui, sur la ligne, il va faire un tour pour rencontrer une fois de plus Alexis Gallarneau qui reçoit la Coupe Davis. Je vous rappelle qu'Alexis faisait partie de l'équipe qui était championne du monde de tennis. On va aller faire un tour là-bas. Féliciter Alexis, faire quelques entrevues également. Je sais que sa maman a travaillé très fort pour organiser cet événement-là. C'est aussi une façon de ramasser des fonds pour aider la carrière d'Alexis également. Et je lance un appel à tous si jamais vous avez une compagnie, vous voulez un ambassadeur, là, je pense qu'Alexis ferait un excellent ambassadeur pour vous, avec le sourire charmant qu'il a, la personnalité charmante qu'il a, et puis les résultats de tennis s'en viennent très rapidement. Il est d'ailleurs champion à Granby, je le rappelle. Il était à Washington cette semaine, tentait de se qualifier, a perdu au deuxième tour des qualifications, mais c'est quand même un tournoi d'un peu plus élevé là, au niveau ATP Washington qu'un challenger. Alors, dans les circonstances, il s'en sort pas si mal. On sait également qu'il jouera l'Omnium Banque Nationale. Il a eu un laissez-passer pour le tableau principal. On en a parlé la semaine passée, en fait, avec Vachek notamment. On va parler beaucoup de l'Omnium, mais comme je disais, je veux qu'on passe sur quelques résultats importants. On les fera pas tous parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tournois un peu partout autour du monde. Mais celui avec lequel je veux commencer, Nicolas Richard, c'est Alex Zverev qui est allé remporter un tournoi sur terre battue à Hambourg.
Oui, première victoire pour l'Allemand depuis 2021. Puis c'est un peu paradoxal de penser qu'il a obtenu son premier titre sur terre battue après ce qui est arrivé à Roland-Garros contre Nadal, là où sa blessure lui a fait manquer plusieurs mois d'activité. Retour en force, je ne sais pas à quel point il sera dangereux à l'Omnium Banque Nationale. Il en demeure pas moins que dans les conditions les plus optimales, il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est démarqué sur terre battue, même à Roland-Garros. C'est curieux. Ça arrive à un bon moment, par contre, pour l'Allemand. Mais je trouve que c'est curieux à quelques jours de l'Omnium. On dirait que je ne sais pas trop me situer, mais certainement que s'il arrive dans la bonne disposition, il sera dangereux à Toronto.
Ouais, il faut dire par contre dans ce tournoi-là, Nico, qu'il a pas battu beaucoup de grosses pointures là. Il a battu Molquin au premier tour, Marterer au deuxième, Ash au troisième, Fils en demi-finale et Jerry en finale. Il était largement favori pour remporter ce tournoi-là. Il reste que quand même, c'est un tournoi, c'est un joueur de haut niveau. Là. Il a quand même fait la demi-finale il n'y a pas si longtemps à Roland-Garros, lui, Alex Zverev. C'est sûr que ça va être un gars à surveiller. C'est un gars, d'ailleurs, qui a déjà remporté le tournoi. Tu te souviendras, c'était l'édition où Roger Federer était venu faire un tour il y a quelques années. C'était à Montréal même. Alors,
c'était contre lui en finale. On se rappelle, Roger avait une blessure au dos qui avait fait... Il avait bousillé en fait le spectacle de la finale parce qu'il servait des deuxièmes, je pense, à 60 000 à l'heure. Là, fait que...
Exact. Et tu avais, je pense, 11 ans à l'époque.
12, si je me souviens bien.
Alors, victoire de Alexander Zverev, c'est déjà un 20e titre pour l'Allemand qui a juste 26 ans. Là. Ça vous donne une idée d'à quel point il est excellent, Zverev. Comme tu dis, ça faisait un petit bail qu'on ne l'avait pas vu. Il faut dire qu'il a eu des blessures également, Alex Zverev. Isa, tu voulais ajouter quelque chose?
Mais il était à la maison, c'est sa ville natale, où est-ce qu'il a joué, qu'il a remporté. Est-ce que la foule, moi, j'ai senti qu'à des moments cruciaux durant le match, que ça a fait une différence. Il y a eu le support de la foule au moment de son match pour remporter la victoire.
Ouais, exact. Et il faut dire qu'il a été chanceux d'une certaine manière aussi, Nico, parce que Casper Ruud était dans ce tournoi-là. Mais Casper Ruud a été à l'image de ce qu'il est, de façon générale, cette année, par bout décevant, parce qu'il a perdu contre Arthur Fils. Arthur Fils a finalement perdu contre Alex Zverev. Mais je ne sais pas si les choses auraient été différentes s'il aurait affronté Casper Ruud. Mais encore là, c'est une comparaison qu'on a parlé souvent. Il est bon, Casper Ruud, mais il a une saison en dentis.
Des montagnes russes, mais je ne serais pas surpris qu'à Toronto, il fasse une bonne performance. On l'a vu l'année dernière à Montréal, à quel point ça avait été fantastique pour lui. Il est bon sur à peu près toutes les surfaces. Le US Open s'en vient, c'est un tournoi qu'il aime particulièrement. Donc oui, tu l'as dit, Alex, en montagne russe, mais ça implique que là, il est peut-être au plus bas de la course, mais va remonter assez rapidement, je pense, à Toronto. Là.
Autre tournoi qui était intéressant d'un joueur dont on attend presque plus de nouvelles, Nico, mais on a eu droit à une certaine resurgence de Stan Wawrinka. Et ça, je trouve ça intéressant parce que Wawrinka, lui, il était en finale à UMAG. Il a finalement perdu contre Popirine en finale. Mais il reste que c'est un gars que, bon, dans les dernières années, là, a pas été, bon, je veux dire, à la hauteur des champions de Grand Chelem qu'il est. Il avance quand même dans les tournois, là. C'est pas rare qu'on le voit en quart de finale, mais quand même, c'est plus un gars qu'on attend comme champion de tournoi après tournoi. Bon, il a quand même fait une bonne performance. Est-ce que c'est un gars que tu penses qui pourrait être intéressant à surveiller dans la série sur dur vers le US Open ou est-ce que ce n'est qu'un seul petit flash? Et tant mieux, on est content de le prendre, mais faut pas attendre plus de Stan Wawrinka.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus un flash. Là. C'est l'année de retour sur le circuit de l'ATP. Il n'en demeure pas moins que c'est un gars qui a roulé sa bosse hein, plus qu'il n'en faut sur le circuit de l'ATP. Les gens l'aiment beaucoup. C'est un gars qui ultimement, comme Murray, qui roule sa bosse, qui refuse de mourir, qui est toujours là, présent, qui tient le fort. Ça m'étonnerait là, qu'au cours des prochaines semaines, t'sais, ça m'étonnerait qu'il gagne un titre Grand Chelem au US Open, Alex, là, soyons francs, mais c'est toujours chouette d'avoir un vieux de la vieille comme ça revenir en force.
Intéressant. Alors, c'est Popirine qui a remporté ce tournoi-là. C'est son deuxième titre en carrière, son premier depuis 2021. Alors, c'est un gars avec un gros service, Popirine. Ce sera peut-être un gars qu'il faudra surveiller sur dur parce qu'avec le service qu'il a, c'est toujours des armes intéressantes. Et du côté des hommes également, un tournoi que je surveillais. Et c'est souvent un tournoi, qui est intéressant parce que c'est un peu l'entrée officielle en Amérique du Nord à Atlanta, ce tournoi qui était, autrefois le château fort de John Isner. Et dans ce tournoi-là, ben c'est Taylor Fritz qui l'a emporté, Nico. Est-ce que Taylor Fritz, c'est un gars que, pourrait, j'allais dire, surprendre, mais peut-être que c'est pas le bon terme, mais est-ce que c'est un gars qu'il faudra garder à l'œil durant la saison sur dur qui s'en vient?
Ben complètement. Tu sais à quel point j'aime beaucoup Taylor Fritz. Sur dur, il est excellent. Qui plus est, en Amérique du Nord, on se rappelle qu'il a gagné Indian Wells l'année passée, si je ne m'abuse. Là, Atlanta, ça mène à Toronto. C'est évident qu'il est parmi les favoris. L'an dernier à Montréal, ça avait été un peu décevant pour l'Américain. On croyait en lui. Rappelle-toi, on en parlait comme l'un des favoris il y a un an à peine. Oui, évidemment, là, il a un titre en poche. Le vent dans les voiles, ça mène à Toronto, là où je suis certain qu'il aimerait connaître une bonne performance, mais surtout, il espère terminer dans le top 10 mondial. On se rappelle que c'est toujours son objectif de redemeurer parmi l'élite mondiale parce qu'il a dit l'an passé à Montréal, hein, oui, c'est beau les titres, mais ce que je souhaite après année, c'est la constance et donc de demeurer dans le top 10 et donc de participer au final de l'ATP. C'est pas mal son objectif saison après saison. Il l'a fait l'année dernière. Le fera-t-il cette année? Ça reste à voir, mais c'est évident qu'avec un titre à Atlanta, ben, il met toutes les chances de son côté pour Toronto.
Et lui, c'est un gars qui était mis de l'avant dans la série Breakpoint. On a vu son histoire qui est particulièrement intéressante, oui, à Indian Wells, mais on a vu un peu les dessous de sa vie de famille également. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Taylor Fritz, c'est peut-être un bon moment pour aller le voir. Puis c'est un gars qui, pourrait très bien faire les choses dans la série sur dur et va être un des candidats peut-être à surveiller pour le US Open, peut-être pas comme titre, mais comme c'est un Américain qui va jouer à la maison, faudra le garder à l'œil. C'est son deuxième titre ATP de l'année. Lui, il avait remporté Delray Beach un peu plus tôt cette année. Il est excellent sur dur de façon générale. Ben, en fait, sur dur et sur gazon, là, dans le cas de Taylor Fritz. Alors, il avait gagné Delray Beach un peu plus tôt cette année et là, Atlanta, qui est toujours un tournoi intéressant là, pour l'entrée en matière sur dur. Voilà. On ne fera pas le tour de tous les tournois qui ont été disputés cette semaine parce qu'il y en avait beaucoup. Et comme je disais, c'est une émission qui est particulièrement dédiée à l'Omnium Banque Nationale. Et Nico, avant qu'on y entre à plein pied, je veux qu'on prenne les nouvelles de Milos Raonic puisque toi, tu lui as parlé cette semaine. D'ailleurs, excellent article dans la presse. Peut-être un peu nous donner des nouvelles de Milos.
On a parlé surtout de ça. En fait, ce qui m'intriguait puis ce qui m'intéressait, puis on en a parlé abondamment depuis son retour, c'est sa remise en forme. On a vu à quel point Milos est arrivé à Wimbledon plus en forme, plus mince, plus rapide, plus athlétique que jamais. Puis on se dit, est-ce que c'est notre œil de spectateur qui ne l'avait pas vu depuis longtemps qui trouve que c'est que ses conclusions sont avérées. Puis je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu as changé quelque chose dans ton alimentation, dans ta préparation physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ultimement? Il dit, ben c'est pas compliqué, 45 livres en moins. Ultimement, c'est ce qu'il m'a dit parce qu'il trouvait, en fait, son problème a toujours été les blessures. Ça, je pense qu'il n'y a pas doute là-dessus, on est tous au courant de ça. Puis il disait que j'ai remarqué que la plupart de mes blessures, du moins celles qui me limitaient le plus, étaient celles au bas du corps, donc au niveau des jambes. Puis il se disait, la logique, ce serait de me faire supporter moins de poids, donc d'en perdre. Ce qu'il a fait, seulement un steak par jour pendant presque 4 semaines en début d'année, a abaissé son poids à la limite du possible et a recommencé à partir de ce stade-là à s'entraîner et à manger plus régulièrement. Puis on l'a vu, ça portait ses fruits. Là. À Wimbledon, il était à l'aise, il était rapide, il volait sur le terrain littéralement. Là, ça mène à Toronto pour la première fois en 5 ans. Il est fier de lui. Il doutait, par contre. Et ça m'a surpris un peu parce qu'il a dit qu'il doutait de son retour jusqu'à ce qu'il saute dans l'avion le 2 juin en direction de l'Europe. Auparavant, il était énormément dans le questionnement de s'il devait revenir, si c'était la chose à faire, s'il n'était pas mieux, justement, d'accrocher sa raquette. Mais il a dit, les retours d'Andy Murray et de Dominic Thiem l'ont énormément inspiré. Là, Milos est de retour, plus fier de lui, que jamais. Et je ne serais pas surpris qu'à Toronto, il y ait une percée du Canadien qui retourne chez lui.
Ben, il a été particulièrement surprenant. Je veux dire, je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il soit aussi compétitif aussi rapidement. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Bon, il faut dire, à Wimbledon, il avait déjà joué un tournoi précédemment où il avait bien fait, c'était contre Kecmanovic, si je me souviens bien. Et là, il avait rassuré beaucoup de monde, mais il reste que je pense que, écoute, je sais pas, toi, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi compétitif alors que certaines personnes le voyaient carrément à la retraite déjà?
Ben, écoute, j'étais un de ceux qui pensait qu'on ne reverrait pas Milos. Je vais être honnête avec toi, Alex, là. Je me disais, OK, ça fait un an et demi qu'il n'a pas touché une raquette. Le tennis est de plus en plus compétitif. Ça m'étonnerait qu'un Milos qui a été abîmé par le passé revienne. Finalement, on s'est trompé, puis je pense que c'est pour notre plus grand bonheur parce que lorsque Milos va, ben, le tennis canadien va. Et s'il peut faire une percée à Toronto, je me répète, mais à quel point ce serait fantastique. Imagine-toi un peu la scène à Toronto, si jamais il joue sur le central, 1, 2, peut-être 3 victoires, ce serait fantastique, puis surtout une réussite pour Milos.
On le verra, lui, à Toronto, Milos Raonic, en compagnie de Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, mais également, j'en ai parlé, j'en ai glissé un mot un peu plus tôt dans l'émission, Vacek Pospisil, Gabriel Diallo et Alexis Gallardo vont être également du tableau principal. Et je vous parlais de Stan Wawrinka un peu plus tôt dans l'épisode parce qu'il a fait la finale dans un tournoi ATP. Eh bien, lui aussi, il sera à Toronto. Il va faire partie des qualifications, reçu un laissez-passer pour les qualifications en compagnie de Kei Nishikori, et ça c'est intéressant parce qu'Alexis Gallardo l'a joué il n'y a pas si longtemps, et c'est un gars qui est anciennement finaliste de Grand Chelem au US Open. Un gars qui a marqué, qui a remarqué en partie sa génération, qui a été un excellent joueur. Par curiosité, Nico, est-ce que tu t'attends à quoi que ce soit de Kei Nishikori qui a surtout joué des tournois mineurs là, depuis un certain temps?
Comme avec Wawrinka, c'est l'année des retours, c'est plaisant, c'est romantique, mais je pense pas qu'on puisse parier sur une grosse victoire de Nishikori, malheureusement, même s'il porte de très beaux vêtements, Nico.
T'attends-tu quand même à le voir faire son chemin jusqu'au tableau principal?
Rendu là, c'est dur. Pourquoi pas? Allons-y dans le romantisme avec Murray, Thiem et compagnie. Pourquoi pas? C'est un retour dans le passé. On vit dans le passé. On parle beaucoup du futur, mais le passé n'est pas terminé.
Le vintage est à la mode.
Oui, exactement.
Ouais, le vintage est à la mode. Il n'a presque pas joué. Il n'a pas joué en 2022. C'est pas compliqué. Et en 2021, sa saison s'était arrêtée à Indian Wells. C'était au mois de mars. Alors, il n'a presque pas joué en un an et demi. Et cette année, il est revenu. Il a joué 3 Challengers. Il avait remporté un Challenger un peu plus tôt à Palmas. Et puis, il a joué un premier tournoi ATP. C'était la semaine passée à Atlanta. Il a perdu 6-4, 6-2 contre l'éventuel champion du tournoi, Taylor Fritz. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un gars qui a une excellente excellente défense. Pendant longtemps, on parlait de lui comme un mur à la défense. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et d'ailleurs, si vous avez des comparaisons à faire, là, Alexis Gallardo, c'est un joueur qui lui ressemble étrangement. C'est pas un gars très puissant qui est Nishikori, mais c'est un gars qui se défend particulièrement bien. Alors, s'il est en forme, c'est un gars qui va retourner beaucoup de balles. Alors, j'ai hâte de le voir, lui, à Toronto. Alors, ça, c'est ce qu'on avait annoncé précédemment. Bon, une chose qui s'en vient aussi particulièrement intéressante, c'est le week-end de la famille. Isabelle Étier, ben, tu vas nous en parler après la pause.
La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@hotelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@hotelmontville.com.
J'en parlais avant la pause. Il y a ce week-end, le week-end de la famille à l'Omnium Banque Nationale, et honnêtement, je voulais qu'on en parle parce que c'est une des choses qui est particulière à l'Omnium Banque Nationale et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et Isabelle, je vais te laisser nous donner plus de détails par rapport à ça, et puis Nico et moi, on pourra ajouter parce que c'est vraiment une des particularités du tournoi Montréal.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est unique, même dans tous les sports. Imaginez, c'est une expérience, c'est le week-end de la famille IGA, c'est gratuit, c'est accessible. Donc, vous pouvez aller sur le site omniumbanquenationale.com pour aller vous procurer vos laissez-passer. Et il y a une belle programmation tout le week-end. Ça commence ce vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, les gens sont invités, tout le monde, à venir visiter, rencontrer, avoir des activités très ludique. Le bon vendredi, il y a de la zoothérapie, il y a des séances de yoga, il y a le petit train via rail, il y a aussi samedi, il va y avoir des moments de danse avec, je pense, Louise Lapierre. Dimanche, il y a le match de hockey Napper, donc il va y avoir des joueurs de hockey professionnels. J'ai su que Huberdeau était sur place. J'ai quelques autres noms qu'on m'a donnés que je ne suis pas en mesure de divulguer. Mais ça va être vraiment toute une partie intéressante de voir des joueuses de la WTA jouer au deck hockey contre des joueurs professionnels et des joueuses. Donc, et tout ça, c'est gratuit. Comme tu le dis, Alex, c'est unique. Et on peut voir aussi, bon, il y a des qualifications samedi, dimanche. Il va y avoir plusieurs joueuses intéressantes, dont on va avoir 4 Canadiennes qui sont là durant le week-end. Mais on va avoir aussi des joueuses du tableau principal qui vont être là durant le week-end, qui vont pratiquer, qui vont être accessibles. Donc, j'invite tout le monde. Je serai là vendredi dès les premières heures là, pour pouvoir passer le week-end avant vendredi. On va avoir aussi notre le tirage au sort pour savoir de quoi aura l'air le tableau principal. Mais quand même, c'est plein d'activités pour tout le monde. Il va même avoir une prestation de tennis en fauteuil roulant aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça. Fait que c'est vraiment, ça va être très agréable.
Ouais, non, c'est vraiment, c'est un week-end, honnêtement, là, si vous avez, ça s'appelle le week-end de la famille, ça s'appelle tellement, le nom de l'événement porte tellement bien son nom parce que c'est un événement parfait si vous avez des enfants. Comme tu le disais, c'est gratuit. Ça prend des billets, là, mais vous avez juste à aller à la billetterie, on vous en donne un. C'est juste que vous ne pouvez pas rentrer sur le site comme ça sans billet, mais vous ramassez un billet à la billetterie et après ça, vous pouvez voir les athlètes s'entraîner de près et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Si vous avez, vous pouvez voir une Zviatek, une des meilleures joueuses au monde, ça peut être une Bianca, ça peut être une Leila, vous êtes à quelques mètres d'eux, c'est totalement gratuit, vous pouvez voir des athlètes de haut niveau s'entraîner là. Je veux dire, Nico, je pense même pas qu'il y a de comparatif dans le monde du sport où tu peux voir des athlètes d'aussi près là, s'entraîner au niveau. Et si vous êtes chanceux, ben, c'est pas rare que ces athlètes-là vont aller faire un détour vers la clôture, signer des autographes, tout ça. Alors ça peut être bien intéressant. Comme tu le disais, il y a beaucoup d'activités aussi sur le site. Il y a des matchs également. Et il y a des matchs de haute qualité là, parce que le tableau de qualification de l'Omnium Banque Nationale, c'est pas comme un En fait, le tableau principal n'est pas un tableau 128. Là. Alors, ça fait en sorte que dans les qualifications, vous avez des joueurs particulièrement bien classés. Écoutez, je parlais tantôt de Stan Wawrinka à Toronto et de Kei Nishikori. Stan Wawrinka, c'est un multiple champion de Grand Chelem. Kei Nishikori, c'est un finaliste en Grand Chelem. Vous avez des joueurs de ce calibre-là qui vont se retrouver dans les qualifications. Alors, ça, c'est si vous avez une chance d'aller voir ces matchs-là, ça vaut la peine. Vous amenez les enfants, vous amenez la famille. Je pense que ça vaut incroyablement la peine. Toi, tu l'as-tu déjà fait, Nico, à l'époque où tu étais un peu plus jeune, aller faire un tour pendant le week-end des qualifs?
Mais nous, on y allait avec mon club de tennis. On n'y allait pas dans la fin de semaine des qualifs, mais on y allait pour les premières journées, là, où c'est plus abordable. Je reviens sur le week-end de la famille. L'an passé, j'ai été surpris. Puis là, je ne sais pas, avec les dames, ça va être la même chose. Mais rappelle-toi, Alex, la partie de hockey dont Isa faisait mention, à quel point les gars étaient compétitifs. Alexis Gallarno, Casper Ruud et Hubert Hurkacz, on se disait, OK, c'est un peu pour mettre de l'ambiance, c'est un peu pour faire belle figure, mais non, les gars voulaient vraiment gagner. Même Alexis, rappelle-toi, était frustré d'avoir perdu son match. Puis il disait, je voulais faire un tour de chapeau, mais juste deux buts. Puis il était vraiment fâché de la performance, mais ça reste juste une partie d'hockey-ball pour les amateurs. Mais non, c'était vraiment très, très chouette. Puis j'ai été surpris. Je ne sais pas si les dames, ça va être la même chose là, au niveau de la compétitivité, mais l'an passé, je me souviens que c'était assez remarquable.
Ben, moi, Alexis Gallarno vient d'une famille de hockey, hein, fait que je peux le comprendre. Exact, mais je pense que quand tu es compétitif et tu es un athlète de haut niveau, peu importe le sport que tu vas pratiquer, même si c'est pour le plaisir, tu veux gagner. Tu es un gagnant, là. Tu n'acceptes pas de perdre. Fait que je pense que ça va être très intéressant, mais ouais, ça va être quand même amical. Mais tu vois, il va y avoir, là, comme dans les joueuses qui vont être présentes, il y a Elisabeth Giguère qui va être là, qui est une excellente joueuse de hockey. Fait que ça va être intéressant de voir.
Oui, tu parlais de la compétitivité des joueuses. Moi, j'ai un souvenir clair d'Elina Svitolina il y a quelques années qui a joué ce match-là et elle était en feu sur la patinoire. Des grosses célébrations à chaque but, les fist pumps aux autres joueuses, aux joueurs. Je me souviens de l'avoir gros sourire, bras dessus avec, si je me souviens bien, là, je vais faire attention à ce que je vais dire. Je pense que c'était avec Francis Milloy de Tennis Canada qui animait également le spectacle. Alors, j'ai des souvenirs assez clairs de ça. Alors, je pense que les filles vont en mettre plein la vue. Tu sais, il y a quelques bonnes joueuses qui viennent de pays qui ont, peut-être une certaine tradition d'hockey. Tu sais, je ne sais pas, je lance ça comme ça, mais Caroline Wozniacki va être là. Il y a du hockey dans son pays. Son retour au jeu, il me semble qu'elle ferait une bonne candidate. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je serais curieux de l'avoir joué. Mais
peut-être qu'elle joue mini-hockey avec ses enfants dans sa maison de la Floride.
Bien, pour savoir, il faudra être là dimanche, 14h, en fait. Venez, les portes ouvrent, je pense, à 11h, ça vaut la peine, tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc, on répète, c'est gratuit. C'est le week-end de la famille IGA. Vous pouvez aller sur le site omniumbanquenationale.com pour aller vous procurer les laissez-passer gratuits. Plein d'activités, je le répète, vraiment intéressant. Puis, il y a aussi les qualifications samedi et dimanche qui vont être... vraiment enlevante du côté féminin à Montréal. Là, on sait qu'il va y avoir 4 Canadiennes dans les qualifications. Rappelons Catherine Sebov qui a été en demi-finale à Granby, Eugénie Bouchard qui est là, Carole Zao et bien entendu celle qui sortira des jeunes filles, là, les meilleurs espoirs juniors. Fait qu'on, j'ai bien hâte de voir de quoi aura de l'air ce beau week-end.
Oui, bien, tu sais, il y aura du tennis de haut niveau. On en parlait tantôt. Tu sais, il y a des joueurs, à cause de la façon dont le tableau est structuré, que, vont être de très, très, très haut niveau. Là, et vous pouvez voir ça gratuitement. Je dis, il n'y en a pas de comparaison dans le monde du sport de voir des athlètes classés aussi haut niveau. Tu sais, vous allez probablement avoir des athlètes du top 50 là, en qualification. Je veux dire, à top 50 là, dans la Ligue nationale de hockey, c'est un des deux meilleurs joueurs de ton équipe là, que tu as la chance de voir gratuitement performer à un niveau de compétition incroyable. Alors, je dis, il n'y en a pas de comparaison possible. Si vous êtes à la maison, vous écoutez ça, réservez des billets ou samedi matin, allez faire un tour, dimanche dans la journée également. Il y a d'autres activités. Et nous, on sera là aussi également parce que moi, j'animerai tout le week-end à BPM. Vous passez devant le boot de BPM, ben, venez nous dire salut, venez nous dire comment vous trouvez votre journée, tout ça. Ça nous fera plaisir de jaser avec nous autres, particulièrement si vous êtes des auditeurs de Sur la Ligne. Si vous n'êtes pas des auditeurs de Sur la Ligne aussi, vous avez le droit de venir nous voir. Mais si vous êtes un auditeur, gênez-vous pas à Granby. C'était bien le fun de rencontrer plusieurs de nos fans et des gens qui nous écoutent semaine après semaine. Alors, non, je suis content qu'on puisse en parler. Isa, c'était une bonne idée que tu puisses le souligner. Et puis, tu sais, des fois, même s'il y a des joueurs un peu moins connus, je vous soulignerai ce nom-là, Nico. Gabriel Diallo, l'année passée, c'est pas le joueur le plus connu, explose en qualification. Et là, après ça, va remporter Granby et cette année est un régulier sur le circuit professionnel. Alors, des fois, il y a des belles surprises comme ça, vous faites dans les gradins puis dire, ben moi, j'ai vu, j'étais là quand ça a explosé pour ces joueurs-là. Alors, j'ai bien hâte de voir. Toi, Nico, seras-tu arrivé à Toronto pour les qualifications ou tu vas être encore à Montréal?
J'arrive, je débarque. Non, je devrais être là pour les qualifs aussi. Je vais pour la fin de semaine, là, pour les disponibilités médias notamment. Fait que oui, je serai à Toronto. J'ai hâte de croiser les Québécois. Hein. Une belle cohorte cette année. Gabriel, Alexis, Félix, Cicéron. Non, ça va être une superbe semaine, même si c'est à Toronto, chez nos voisins ontariens.
On va s'ennuyer de toi alors que tu seras dans la ville reine, loin de nous. L'année passée, on t'avait tout près de nous sur la galerie de presse, mais là, on va s'ennuyer de toi. On va devoir te remplacer.
On se voit des FaceTime en soirée, Alex.
En soirée, en deux matchs. Et tu viendras faire ton tour régulièrement en ondes également. Alors, non, le week-end de la famille, honnêtement, ça vaut la peine si vous avez quelques heures à investir autour du Parc Jarry. C'est tellement un beau site, en plus, le Parc Jarry. Là. Alors, ne vous gênez pas. On va faire une courte pause et au retour, on va continuer notre mise en bouche, si on veut, courte mise en bouche sur l'Omnium Banque Nationale, parce qu'on reçoit l'ancien directeur du tournoi, Eugène Lapierre.
La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@hotelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@hotelmontville.com.
Omnium Banque Nationale, autrefois Coupe Rogers, c'est synonyme de tennis, c'est synonyme de chaleur et parfois de pluie, mais c'était pendant très longtemps aussi synonyme de M. Eugène Lapierre. Eugène qui se joint à nous pour une conversation. Et Eugène, je dois l'admettre, j'ai fait plusieurs entrevues avec vous dans ma carrière et c'est un immense plaisir de pouvoir vous recevoir à nouveau. Alors que vous êtes un peu plus loin de l'action que vous l'avez déjà été. Comment vous portez-vous d'abord dans un premier temps, M. Eugène Lapierre?
Ça va très bien, vraiment. Et je suis toujours un peu surpris du nombre de personnes qui s'inquiètent de comment ça va. J'en pense toujours que je devrais être sur le bord de la dépression, à l'approche du tournoi, de ne pas être dans l'action et tout ça. Non, je suis très, très con. Je suis toujours très heureux de mon choix. Surtout avoir l'équipe qui avait derrière moi et qui continue donc d'organiser ça. Je les vois, je vais de temps en temps au bureau puis je les vois courir partout là, présentement. C'est la période la plus folle de l'année de ce côté-là. Il y a une énergie, une frénésie toujours contagieuse et c'est bien comme ça. Alors, en voyant ça, puis le grand tournoi qui se prépare, puis je vois les chiffres, puis tout, ça va bien. Alors, donc, je suis assez heureux de ça. Puis de mon côté, je m'organise très bien avec une charge de travail beaucoup diminuée. Alors, donc, je m'occupe encore de quelques dossiers que j'ai choisis moi-même, hein, soit dit en passant. Donc, j'ai un contrat de couple d'années avec Tennis Canada pour développer d'autres aspects de la promotion du tennis. Notamment, par exemple, le fait d'essayer de trouver des façons d'avoir plus de terrains de tennis couverts, donc intérieurs, publics, donc ouverts à l'année longue, pour faut travailler sur l'accessibilité, surtout pour les jeunes, de pouvoir jouer au tennis à l'année longue. On veut voir aussi qu'est-ce qu'on va faire avec comment on peut améliorer nos installations, le stade lui-même. Ça fait déjà plusieurs années qu'il a été construit. Il faut voir qu'est-ce qu'on... On vient de signer un contrat à long terme avec les deux circuits, la WTA, l'ATP, pour 30 ans. Hein? C'est quand même inédit et on est très, très heureux de ça. Avec l'avènement des bourses égales à partir de 2027. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années avec nos installations et tout? Alors, c'est des dossiers qui m'intéressent énormément, puis je vais continuer à travailler là-dessus.
Et on parle de terrain couvert sans qu'on rentre dans un panier de crabes. Peut-être qu'un jour, il y aura un toit sur le central à Montréal.
Qui sait, peut-être, c'est... Hein, puis je voudrais être ici assez clair là-dessus parce que peut-être les gens peuvent dire « Ouais, comment ça fait que vous aviez l'idée d'un toit, puis là, tout à coup, puis, c'est plus dans le portrait et tout ça. » c'est relativement simple. Hein. Avant qu'on ait On cherchait à consolider notre place au sein des grands tournois du monde. Les tournois Masters 1000 du côté masculin, les tournois 1000 du côté féminin. Et donc, une de ces façons-là, c'était de se démarquer sur la scène internationale. On trouve toujours intéressant le fait d'avoir un toit, mais on voulait le lier au fait d'obtenir une garantie de sanctions, si on veut, pour à long terme. Alors, on pensait 20 ans, 25 ans, mais là, on a obtenu 30 ans. Donc, du coup, notre argumentaire n'est plus nécessaire. Les deux circuits n'obligent pas le fait d'avoir un toit. On sait que ça va devenir probablement une très forte recommandation dans l'avenir. On voit les changements climatiques et tout. Donc, si on veut continuer de pouvoir tenir de grands événements, et ce n'est pas vraiment pour les joueurs comme nous, les athlètes comme tels, mais c'est pour le public. Hein. À un moment donné, ça va devenir absolument... Ça va être difficile de venir assister à des événements en plein été, sous les canicules et ainsi de suite. Enfin, on verra. On n'est pas... ce n'est plus une question d'urgence comme telle, mais on va quand même chercher à voir s'il ne peut pas y avoir des solutions dans ce sens-là pour les 30 ans à venir, certainement. Donc, c'est certain. Bon, et c'est sûr que la pandémie est venue jouer. On était prêt avec un projet qui avait l'appui des instances politiques et tout. Mais quand la pandémie est arrivée, ça a tout foutu par terre. Alors, donc, on va prendre notre temps, on va continuer à étudier la question, puis on va chercher la meilleure façon possible d'améliorer nos installations.
Mais en tout cas, pour l'ancien directeur du tournoi, vous me semblez encore très, très, très au fait de tous les grands dossiers. Vous n'êtes pas trop loin de l'action. Justement, parlez-nous là, un peu comment ça s'est passé, cette semi-retraite-là, et comment, à quelle hauteur vous êtes encore impliqué. Vous parlez de quelques dossiers. Ça représente combien de temps par semaine ou par mois, peut-être, d'investissement de temps d'Eugène Lapierre?
Je ne calcule pas nécessairement. En principe, ça devrait être autour d'une demi ou deux tiers tâches comme tel. Okay. Mais j'ai l'impression d'en faire un petit peu plus que ça, mais c'est pas grave. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai choisi donc de faire. Évidemment, je demeure conseiller spécial. Mon titre, c'est conseiller spécial auprès du PDG. Alors donc, c'est pas nécessairement le PDG qui m'appelle pour des conseils, loin de là. C'est plus... toute ma gang, là, finalement, le staff et tout ça, où il y a toujours des questions qui arrivent et bon, ils ont recours à ma mémoire avec le fait comment on a organisé telle chose, d'où viennent l'idée derrière certaines choses qu'on a mises en place, quelles étaient les causes, les raisons et ainsi de suite. Avant de changer des choses, il faut savoir d'où ça vient et tout ça. Alors donc, c'est plus à ce niveau-là. Et ça me fait toujours plaisir de parler à mes anciens collègues et que je considère toujours encore mes collègues présentement. Donc, il se passe plein de choses. J'ai pris un petit mandat aussi avec la WTA sur un comité qu'on appelle le comité innovation pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer pour l'expérience de la clientèle, des amateurs, lorsqu'ils assistent au match sur place ou à la télévision et ainsi de suite. Alors, on va brasser des idées pour voir si on ne peut pas changer certaines choses.
Bien, peut-être qu'on reviendra sur ces idées-là. Ça m'intéresse peut-être un peu plus tard dans l'entrevue, mais j'ai une question pour vous bien importante. Là. Dans les dernières années, à peu près sûr que vous n'avez pas eu, en fait, dans les dernières décennies, vous n'avez pas eu l'occasion de voir beaucoup de matchs, j'ai l'impression. Cette année, allez-vous aller vous asseoir dans les gradins et regarder quelques matchs?
Ah bon, oui. Mais je dois dire que dans toute l'équipe, c'est probablement moi qui en ai vu le plus dans les dernières années, parce que les gens, pendant le tournoi, les employés de Tennis Canada, les bénévoles et tout ça, ils ne voient pas grand-chose. Je vais vous dire, même les placiers dans le stade, ils sont bien plus occupés à s'occuper des gens, à voir que tout se passe bien et tout ça, que ce soit fluide, que de vraiment suivre un match, puis regarder les points, puis prendre pour un joueur ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas travailler pour Tennis Canada d'une façon ou d'une autre, c'est pas la place pour vraiment apprécier des matchs, sauf dans les temps. Moi, je gardais mon tournoi pour... j'essayais autant que possible de n'avoir rien à faire durant le tournoi, parce que juste pour éteindre les feux, quoi que ce soit. Parce que ça arrive constamment, toute la journée. Beaucoup de monde m'ont demandé qu'est-ce que vous faites dans une journée du tournoi. Mais quand j'arrive, en principe, j'ai quelques entrevues de bouquet ou des choses comme ça, des rencontres avec les officiels du tournoi, l'ATP ou la WTA. Et le reste, j'essaie de rien garder parce qu'il arrive toujours quelque chose. On peut penser à l'annonce. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Et dans un tournoi, c'est vrai. Mais entre-temps, je pouvais aller voir des invités, des gens que je voulais rencontrer et tout ça. Et on s'assoyait souvent plusieurs minutes devant un match et tout ça. Donc, j'en ai vu quand même un peu. Et Dieu sait qu'on en a eu des bons. Pour cette année, j'ai prévu. Mais savez-vous quoi? Aussi, ce que j'ai prévu, c'est d'aller faire un tour à Toronto. Parce que depuis qu'on est devenu un tournoi à la même semaine, il y a, je ne sais pas, 10-15 ans, on était à deux semaines différentes. On avait une semaine une après l'autre. Donc, on avait la chance, l'occasion d'aller voir des matchs dans l'autre ville. Je dis la même chose pour mes collègues de Toronto. Mais à partir du moment où on a été la même semaine, c'était évidemment plus possible. Alors là, ça fait un bail là, que j'ai vu le tournoi de Toronto. Puis ma copine, elle m'a dit « Ah, ce serait le fun d'aller voir les deux cette année. Voilà. » Alors, on va prendre la voiture, puis prendre la 401, puis aller voir quelques matchs en milieu de semaine. Donc, je serai là au début de la semaine et je vais revenir à compter certainement du vendredi. On verra comment ça se déroule. Donc, je vais voir les deux bouts du tournoi ici à Montréal et le milieu à Toronto.
Mais je suis content de savoir qu'au moins le partisan de tennis en vous pourra profiter des deux endroits à Montréal, Toronto, voir les hommes et les femmes. C'est sûrement une question à laquelle vous avez répondu beaucoup dans la dernière année, tu sais, mais pour les gens qui ne seraient pas au courant, ça se passe comment votre parcours? Vous vous retrouvez comment à la tête de ce tournoi prestigieux-là ici à Montréal? Peut-être vous nous raconter un peu la genèse de ce parcours-là.
J'ai joué un peu. Je peux me targuer d'avoir à peu près tout fait en tennis à partir de chasseur de balles dans mon patelin à Grimby qui accueillait l'Omnium du Québec, à son avec Québec Open, et avec les grands joueurs canadiens, québécois et beaucoup de l'extérieur. Donc, on voyait des Européens, des Américains, des Sud-Américains débarquer quasiment en face de chez moi. Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit, si on veut. Et donc, j'ai joué, j'ai fait de la compétition chez les juniors et ça, assez pour avoir une bourse d'études aux États-Unis. Je suis allé étudier au Mississippi. J'ai fait mon bac en psycho. Je suis revenu, j'ai enseigné. Quand je reviens à Green Bay, ils ouvrent un terrain de tennis intérieur et ils se cherchent un pro. Alors, le téléphone sonne. Bon, t'es revenu des États-Unis, aimerais-tu être pro? Bah oui, OK, je vais essayer ça. Donc, j'ai été pro quelques années. Et ensuite, toujours une question de téléphone. J'ai toujours répondu au téléphone. C'est ça qui était mon problème ou ma chance, finalement. C'est la Fédération québécoise de tennis qui cherche un directeur technique. Alors, donc, Ben, je dis OK, je vais essayer ça. Je vais faire directeur technique. Ce que j'ai fait pendant 10 ans, entre 1983-1993, et là, le téléphone a encore sonné, c'était mon ami Richard Legendre, donc mon prédécesseur, directeur du tournoi à Montréal, qui dit hey, là, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. On a de plus en plus de tournois internationaux. Il faut organiser un challenger à la demande de l'ATP. On a encore un circuit satellite. On a des tournois. On a les internationaux juniors du Canada. Et on a un super projet. On veut virer le stade de baseball en stade de tennis. Alors, c'était à ce moment, en 93. Et ben, j'ai dit, ben, d'accord, alors je vais aller à Tennis Canada. Donc, j'ai rejoint Tennis Canada à ce moment-là en travaillant de pair avec Richard Legendre. Et donc, comme directeur de tournoi S, par exemple, au pluriel. Donc, j'avais plusieurs tournois que je dirigeais à travers la province, tout en aidant aussi avec ce fameux projet de transformation du vieux stade de baseball en un stade de tennis moderne. À l'époque, en fait, on a quand même gardé une bonne partie du vieux stade de baseball. On a transformé tout le reste. On connaît le résultat aujourd'hui. Et ben, un peu plus tard, quand Richard a fait le saut en politique, du jour au lendemain, alors ça a pris un peu Tennis Canada par surprise. Et autant l'organisation comme telle peut-être ne me connaissait pas tant que ça, autant ici au Québec quand même, ici, il apparaissait que je pouvais prendre la relève. Enfin, j'ai été nommé par intérim parce que c'était trop serré pour qu'il y ait une ouverture de poste et tout ça. Donc, j'ai fait le tournoi de 2001. Ça s'est passé ça en 2001. J'ai fait le tournoi de 2001 et bon, ben, les gens ont été satisfaits et quoi. Puis on va enlever l'intérim et là, je suis devenu directeur du tournoi à part entière. Donc, c'est un petit peu ça. Et tout ce temps-là, je dois vous dire, Alexandre, que tout ce temps-là, je me disais, je vais rester dans le tennis encore un peu, puis bon, ben, je me trouverai un vrai job, quoi, à un moment donné. Et là, ben, c'est peut-être vrai, là. Peut-être que je suis rendu là à trouver un vrai job. Mais enfin, alors, c'est un peu ça, mon parcours. Voilà.
Ah, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant que votre passion, ironiquement, vous ne l'ayez jamais envisagée comme un emploi, alors que ça a été votre gagne-pain pendant l'essentiel de votre carrière quand même. Et sans dire long sur le fun peut-être que vous avez eu à travailler parce que vous ne l'avez jamais considéré comme un emploi finalement.
Non, ben ça fait partie de mes plus beaux souvenirs à un moment donné, si je me mets à essayer de voir qu'est-ce qui a été marquant pour moi. Ça a été vraiment le fait d'avoir beaucoup de plaisir à organiser, à travailler dans le tennis, à organiser des choses, à travailler avec le monde et avec une équipe vraiment formidable. Et j'imagine que la plupart pourront en témoigner le fun qu'on a eu dans les réunions, à penser à des affaires, penser à des nouvelles façons d'améliorer le tournoi, à les mettre en place et à voir le résultat. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Donc, oui, effectivement, c'est sûr que c'est dur à un moment donné parce qu'on fait face à toutes sortes de situations, des fois qui sont contraignantes et peut-être des fois pas agréables, des gens qui sont pas contents, des sujets, ça. Mais en bout de ligne, on voit le succès. Et pour moi aussi, l'important, c'est de savoir qu'on travaille pour quelque chose, pour le développement du sport. Donc, ce n'est pas le tournoi pour le tournoi. On sait que les retombées du tournoi vont servir à faire la promotion d'un sport que les gens vont pouvoir pratiquer toute leur vie. Et là, je pense surtout aux jeunes qu'on attire dans le sport. À cet égard-là, on a fait du chemin, mais il en reste encore beaucoup à faire, je pense. Mais on a travaillé à développer le haut de la pyramide. Ça va assez bien. Maintenant, on va vouloir s'employer à plus populer tout le reste de la structure.
Bien, ça devrait être plus facile dans les prochaines années, étant donné qu'on vit une espèce de génération d'or qui commence, là, même s'ils sont déjà expérimentés. Puis on en a peut-être pour 10-15 ans avec des Bianca, des Chapeaux, des Félix, si tout va bien, si on est chanceux, des Léla, etc. Puis une Victoria Mboko qui s'en vient. Alors, ça sera peut-être plus facile de développer la base pour les 10 prochaines années. En tout cas, de ce point de vue-là, l'attention médiatique, ce sera peut-être un peu plus facile à générer que ce que vous avez fait. Et peut-être juste pour ajouter sur la partie plaisir que vous avez fait, moi, ça fait bon, plus d'une dizaine d'années là, que je travaille en collaboration de près ou de loin avec Tennis Canada comme journaliste et je peux vous dire que je vois les mêmes visages depuis une dizaine d'années et je pense que le taux de rétention est incroyable au niveau des employés et je pense que ça en dit long sur le plaisir que les gens ont eu à travailler avec vous. Monsieur Lapierre, merci infiniment d'avoir accepté ma demande d'entrevue une fois de plus. C'est tellement tout le temps incroyable de pouvoir jaser avec vous de tennis et du tournoi. En espérant vous croiser quelque part au Parc Jarry là, durant le tournoi. Je ne serai pas à Toronto, mais à Montréal, ça me fera plaisir de vous serrer la pince si on se croise. Alors, merci infiniment. Parfait. Bravo pour cette belle erreur de parcours qu'aura été votre carrière. Félicitations. Et puis, c'est toujours un grand plaisir de vous parler.
Merci, Alexandre. Au revoir.
Merci une fois de plus à Eugène Lapierre. C'est toujours tellement intéressant. Je vous rappelle que c'était une mise en bouche, un extrait de dizaines de minutes, là, quinzaine de minutes avec Eugène Lapierre. Et c'était vraiment, vraiment intéressant de voir comment il a vu le tournoi grandir dans les dernières années et comment il voit l'avenir de ce tournoi-là. Et puis, on est content de savoir aussi que même s'il est dans une semi-retraite, il s'ennuie pas trop. Il a beaucoup de projets, comme il l'a mentionné, avec notamment le tournoi, mais travaille également avec la WTA sur certains projets. Ça complète l'épisode d'aujourd'hui. Et comme c'est la tradition, Isabelle Etier, je te remercie. Et Nicolas Richard, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Isa. Bon tennis, tout le monde.